Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Radio de la Paix. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette édition de la mi-journée. En titre de ce 12h, le ministère de la Santé a lancé hier le projet de développement des services d'imagerie et de laboratoire d'analyse biologique qui permettra de combler les lacunes critiques en matière d'accès à ces services. Et puis le programme Digifam dédié à l'inclusion des femmes dans l'économie numérique a été présenté récemment. Ce programme vise à améliorer la compétitivité des femmes entrepreneurs. Dans l'actualité internationale, on parlera de la victoire de Diomaye Faye. Le vainqueur annoncé de la présidentielle au Sénégal, Bassirou, s'est exprimé hier soir. Il s'engage à gouverner avec humilité dans la transparence et combattre la corruption à toutes les échelles. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis en fin d'édition, l'invité de la rédaction, Dr Adama Sadio, politologue sénégalais, décryptera avec Jean-Claude Comé les résultats justement de la présidentielle du 24 mars dernier au Sénégal. Voilà pour nos grandes lignes. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et la Société financière internationale SFI, filiale du groupe de la Banque mondiale, ont procédé lors d'une cérémonie au lancement de la mission de démarrage des projets de développement des services d'imagerie et de laboratoire d'analyse biologique en partenariat public-privé. Cette activité s'est tenue hier lundi à Abidjan en présence du ministre ivoirien Pierre Ngou Demba, ministre de la Santé, et des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Le point avec Paul-Bénédicte Bolou.
Les objectifs de ce projet avec Tony Vergène, représentant de la Banque mondiale.
Combler des lacunes critiques en matière d'accès, disponibilité, la qualité des services de radiologie et laboratoire dans l'ensemble du pays. D'améliorer l'accès équitable aux services de radiologie et laboratoire, tout en maintenant l'accessibilité financière des services diagnostiques aux populations. La Banque mondiale se réjouit donc d'accompagner le gouvernement pour la réalisation de cet objectif.
La surveillance et la détection des maladies sont les composantes essentielles de l'épidémiologie en matière de politique de santé. Josiane Kouida, représentante de la Société financière internationale.
Nous sommes particulièrement encouragés par de nombreuses réformes de l'offre publique et privée de soins menées par le ministère de la Santé dans le cadre de l'extension de la couverture maladie universelle. L'investissement du ministère de la Santé a été crucial pour l'organisation réussie de cette mission de démarrage et sera un facteur clé de succès pour une mise en œuvre réussie du projet.
Pour Pierre Demba, ministre en charge de la santé, la couverture de ces deux pôles régionaux implique ce qui suit.
La construction et la rénovation des 14 laboratoires d'établissements sanitaires publics dans une approche de continuum de soins de santé. Cela reflète notre engagement à rapprocher les services de santé et de qualité de nos concitoyens et à accroître leur accessibilité géographique et financière. Nous avons le devoir de nous rassurer que chaque district sanitaire pourra offrir des services de diagnostic de qualité. Remercier la Société financière internationale pour son soutien et son expertise dans la mise en œuvre des projets.
Le démarrage de cette activité concerne les pôles d'excellence de santé d'Abidjan et d'Abengoro.
Une mission composée d'émissaires de la Banque mondiale, des ministères des Finances et du Budget, de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a séjourné récemment à Boaké pour s'imprégner du système d'information digitalisé en milieu hospitalier. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance des services de base aux citoyens, PAGIDES. On en sait un peu plus avec Joseph Assalé, notre correspondant dans le Boaké.
En vue de se rendre compte de la mise en œuvre du système d'information digitalisé en milieu hospitalier, la délégation a visité entre autres le bureau des entrées, les locaux de la médecine générale, la maternité et le laboratoire d'analyse médicale de la PMI, protection maternelle et infantile de Boaké, Sokoura. Madeleine Yao, coordonnatrice du projet d'amélioration de la gouvernance des services de base aux citoyens, en abrégé PAGDS.
L'importance de l'outil aussi comme un élément facilitateur de leur mission sur le terrain, mais aussi un élément qui leur donne plus de crédibilité à cause de la qualité des prestations qu'ils peuvent apporter aux clients et à ceux qui fréquentent le centre.
Diop Saïdou, représentant du projet PAGDS à la Banque mondiale.
Nous avons pu constater la joie du personnel de santé qui sent une amélioration dans leurs conditions de travail, non seulement en termes de gain de temps, mais aussi en termes de traçabilité.
Satisfaction également du directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, docteur Aka Kofi Charles.
Il y a une amélioration du circuit et il y a une traçabilité qui permet à tous ceux qui sont connectés au système de pouvoir avoir les informations concernant ce malade. Cette digitalisation améliore donc les services.
La deuxième phase de projet d'amélioration de la gouvernance des services de base aux citoyens, démarrée il y a quelques mois, prend fin en décembre 2025. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Parlons de violences faites aux femmes et aux filles. 416 cas de féminicide enregistrés entre 2019 et 2020 en Côte d'Ivoire. Ce sont les chiffres issus d'une enquête menée par l'ONG citoyenne pour la promotion et la défense des droits des femmes, des enfants et des minorités, en abrégé CPDFEM. L'association estime le nombre en hausse et déplore donc ce fait. Sur les raisons de cette montée du féminicide, les explications de Sylvie Apata. Elle est la présidente de l'ONG citoyenne pour la promotion et la défense des droits des enfants.
Les féminicides sont la résultante des violences conjugales. Donc, plus les violences sont observées au sein des ménages et que les résolutions à l'amiable demeurent, plus nous constatons des cas de femmes qui sont battues jusqu'à ce qu'elles décèdent à la suite de ces coups-là.
Qu'est-ce qui explique le meurtre de ces femmes, de ces filles?
C'est le fait que dans l'esprit des compagnons de ces victimes-là, la femme est leur possession. Et donc, elle me doit obéissance, soumission totale. Et dès que je commence à sentir que je perds le contrôle sur la personne, alors juste de violence. Et ce sont des violences répétées qui finalement arrivent au coup fatal. Mais ce qu'on constate malheureusement, c'est que les cas de féminicide sont réglés à l'amiable. Et ça reste au sein des familles. Il faut prendre le problème à bras le corps et arrêter de résoudre les problèmes à l'amiable. Mais une chose est certaine, c'est que quand il s'agit des faits de meurtre, la justice réagit toujours. Donc ce que nous, on peut continuer de faire et d'exhorter les populations à la dénonciation. Maintenant, au niveau étatique, il faudrait continuer de renforcer les mécanismes de prise en charge. Il convient que l'infraction féminicide soit dans le code pénal pour que justement la question soit encore mieux traitée et que les auteurs ne restent pas impunis. C'est tout le monde qui est exposé à cette violence-là. C'est pour ça que tout le monde doit unir les efforts pour l'endiguer. Et il faut agir et agir à temps.
Vous écoutiez Sylvie Apata, la présidente de l'ONG citoyenne pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités, en abrégé CPDFEM. La première édition de Fémininement Digital qui place les femmes au cœur de l'économie numérique en Côte d'Ivoire s'est tenue du 20 au 22 mars dernier à Abidjan. Cet événement est une initiative du programme Digifam qui est dédié également à la promotion d'une gouvernance des données équitable. La cérémonie de clôture de cette première édition a été marquée par la présentation du programme Digifam sur les objectifs de ce programme. Écoutons sa directrice Nadine Zorro.
Le programme Digifam est un programme d'assistance technique qui vient accompagner l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Et notre objectif, c'est d'améliorer la compétitivité des femmes entrepreneurs. Pour nous, les femmes entrepreneurs constituent un vivier très important pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est très important qu'on arrive à les outiller avec le digital et tout ce qui est compétences liées aux données afin qu'elles puissent être des parties prenantes et des parties actives dans le développement économique ivoirien. Et donc, ce programme a été lancé par un financement de Millennium Challenge Corporation, USAID et Microsoft. Le programme est composé de 5 composantes principales. La première composante est Digifam Entrepreneur. Et avec cette composante-là, nous accompagnons les PME qui ont au moins 2 années d'existence et nous les accompagnons à travers un processus d'incubation de 6 mois suivi d'une accélération de 3 mois. Et dans ce programme-là, on a des activités à Abidjan et à San Pedro. Donc, nous accompagnons 50 femmes dans ces deux villes-là, 35 à Abidjan et 15 à San Pedro, pendant cette période de 6 mois. Et 15 de ces entreprises-là sont accompagnées pendant 3 mois dans l'accélération. Avec Digifam Entrepreneurs, nous sommes à la deuxième cohorte du programme. Et à ce jour, c'est 105 entreprises PME gérées par des femmes qui ont intégré le programme. La première cohorte était composée de 52 femmes et la deuxième est composée de 53 femmes.
Nadine Zorro, à l'instant, elle est la directrice de Digifam, un programme dédié à l'inclusion des femmes entrepreneurs dans le digital. Et puis la question du recrutement et du placement des candidats à la migration en Côte d'Ivoire préoccupe l'Organisation internationale du travail. Une rencontre des partenaires en vue de valider l'étude sur le cadre légal et réglementaire régissant ces activités en faveur des candidats à la migration du travail a eu lieu le 21 mars dernier à Abidjan. Sur le contenu de cette initiative, suivons les propos de Ndri Aya Alida Tano, coordonnatrice nationale du projet FER, entendez, programme intégré sur le recrutement équitable à l'OIT.
Cette étude était d'aider l'OIT et ses partenaires pour comprendre l'arsenal juridique, c'est-à-dire qu'est-ce qui encadre juridiquement le recrutement des travailleurs ivoiriens migrants ainsi que les travailleurs migrants qui résident en Côte d'Ivoire. En fait, il y a une première étude qui avait eu lieu en Tunisie et cette étude-là qui a balayé rapidement l'arsenal juridique ivoirien a présenté un vide juridique en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs migrants ivoiriens, c'est-à-dire les travailleurs ivoiriens qui partent à l'étranger, ainsi que les travailleurs migrants ici. Certes, il y a une loi qui protège la traite des personnes, mais on se rend compte qu'au niveau des travailleurs migrants, il y a un vide juridique. Alors, cette étude-là que nous sommes en train de valider nous a permis de comprendre au niveau du recrutement qu'est-ce qui existe comme lacune, qu'est-ce qu'il y a comme défis et quelles sont les recommandations pour pouvoir combler ces différents défis et ces lacunes.
Ndiaya Alida Tano, coordonnatrice nationale du projet FER, le programme intégré sur le recrutement équitable à l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et puis des personnes en situation de handicap, des veuves et orphelins issus des communautés musulmanes et chrétiennes de Daoukro ont reçu le 23 mars dernier des vivres et non-vivres offerts par l'association Solidarité Bénévole. Cette action sociale qui n'est pas la première du genre selon la présidente Amoussa Nancy vise à soutenir ces populations dans cette période de pénitence. Les détails avec notre correspondant sur place, François Kra.
Pourquoi le bien-être des personnes vulnérables est-il une priorité pour l'association Solidarité Bénévole? Écoutons la présidente Amoussa Nancy.
Il y a trop de cas. Ce que nous donnons, c'est insuffisant. Il y a des personnes qui ont 8 enfants, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas d'activité. C'est difficile. Et nous, notre association est laïque.
Une laïcité qui rend plus forte l'association, au dire du vice-président Collet Eugène.
Quand nous sommes ensemble, comme le dit l'adage, l'union fait la force. C'est ça qui nous donne la force de pouvoir aider nos frères et sœurs qui sont en difficulté.
Cette année, 180 kits constitués majoritairement de produits alimentaires de première nécessité ont été distribués. Yao Thérèse, présidente des personnes en situation de handicap de l'IFU, n'est pas restée muette.
C'est pas facile pour des personnes en situation de handicap d'avoir quelque chose à manger ou bien même de sortir. Donc vraiment, on dit merci à cette ONG de penser à ces personnes vulnérables que nous sommes.
Pour le sous-préfet de Daoukro, Aboubakar Kone, cette activité s'inscrit dans la volonté du chef de l'État qui prône une Côte d'Ivoire solidaire.
C'est-à-dire que ceux qui sont debout doivent pouvoir tendre la main à ceux qui sont couchés pour la relever un peu. Moi, c'est un appel à toute bonne volonté de pouvoir accompagner cette initiative, de sorte que les années à venir, nous puissions avoir plusieurs tonnes de vivres et de nourriture pour mettre à la disposition des personnes qui en ont besoin.
La dite cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la sous-préfecture de Daoukro en présence des guides religieux. François Kra, Daoukro, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières présidentielles au Sénégal, le président élu et annoncé Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé hier soir à Dakar. Dans un discours retranscrit en direct par plusieurs médias, il s'est félicité de la bonne tenue du scrutin et a fixé ses priorités nationales tout en rappelant l'ancrage panafricaniste de son pays. Nous l'écoutons.
En élisant président de la République, le peuple peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir que notre projet de société a suscité et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. J'ai une pensée pour les femmes et les jeunes. Une partie importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leurs souffrances et leur manque de perspective.
Vous écoutiez un extrait de la déclaration du président sénégalais, président annoncé, hein, sénégalais Bassirou Diomaye Faye, en attendant bien évidemment la confirmation du Conseil constitutionnel. Et pour sa part, Amadou Ba, le candidat du parti au pouvoir, a reconnu hier lundi à son quartier général la victoire de l'opposant anti-système Bassirou Diomaye Faye au premier tour de l'élection. Il l'a d'ailleurs félicité. Voici lui aussi un extrait de sa déclaration.
Le Sénégal vient une fois de plus de démontrer au monde la maturité et la vitalité de son modèle démocratique. En effet, organisé dans des conditions inédites et au travers mille et une difficultés, la présidentielle de ce 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des mieux organisées, des plus transparentes, des plus paisibles et des plus sincères. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations.
Amadou Ba, le candidat du parti au pouvoir au Sénégal, dans des propos recueillis par notre confrère de la radio Sud FM à Dakar, Abdourahmane Diallo. Et puis la présidentielle au Sénégal est au cœur de l'actualité sous-régionale. On en parle également dans l'invité de la rédaction. Le cinquième président de ce pays, Bassirou Diomaye Faye, le candidat anti-système, qui attend la confirmation de sa victoire par la Commission électorale nationale autonome et le Conseil constitutionnel. Mais en attendant, Docteur Adama Sadio, politologue sénégalais, décrypte les résultats de cette présidentielle et répond donc aux questions de Jean-Claude Comé.
Docteur Adama Sadio, bonjour.
Bonjour.
L'élection au Sénégal, depuis le 24, les choses sont en train de se préciser. Un nom en train de sortir, c'est Diomaye Faye, qui sera le cinquième président donc, du Sénégal, avec cette reconnaissance de pratiquement tous les candidats. Vous qui êtes là-bas, vous confirmez déjà ces tendances?
Oui, en fait, ces tendances, c'est depuis dimanche soir, pratiquement, tous ceux qui ont suivi de près, en fait, la diffusion des résultats savaient que c'était des tendances lourdes et que, vraisemblablement, il n'y aura que sur le tour et que M. Diomaye Faye est élu cinquième président de la République du Sénégal, même si, encore une fois, ce ne sont pas des résultats officiels, parce que les résultats officiels au Sénégal, c'est la Commission nationale de recensement des votes et enfin le Conseil constitutionnel qui donne les résultats officiels au Sénégal.
Mais déjà au soir donc du vote, hein, certains candidats, des candidats de poids avaient indiqué que voilà, le cinquième président sera donc Diomaye Faye. Pourquoi un tel résultat? Premier tour déjà, un nom qui sort.
Oui, parce qu'en fait, le président Macky Sall et son régime ont perdu le pouvoir depuis les événements de mars 2021. Avec ce rejet dans la rue, donc les manifestations et autres, c'était des manifestations en réalité qui symbolisaient en fait le rejet de la gouvernance de Macky Sall. Et donc ces manifestations dans les rues s'est après concrétisé dans les urnes lors des élections locales du janvier 2022 et lors également des élections législatives de juillet 2022. Donc Donc, en réalité, cette élection présidentielle n'est rien d'autre qu'une confirmation d'une dynamique enclenchée lors des événements de mars 2021. Donc, à mon avis, ce qui a le plus fait perdre le président Macky Sall, c'est à un moment donné cette détermination à en finir définitivement avec Ousmane Sonko. Et vous voyez que même si Sonko n'est pas candidat, mais il a réussi à placer son secrétaire général qui est devenu aujourd'hui le cinquième chef de l'État du Sénégal.
Décryptage justement de cette mobilisation de la population pour choisir donc cette rupture quant à la continuité. Quel message cela renvoie?
Oui, cela renvoie à ce que le peuple sénégalais, il y avait l'usure du pouvoir parce que le président Macky Sall a fait 10 ans. En fait, quand je dis le président Macky Sall, même si lui il n'est pas candidat, mais quand même celui qui est candidat dans son camp, c'est lui-même qui l'a choisi. Il y a également les conditions socio-économiques des populations sénégalaises, même si il y a des infrastructures qui sont faites par le chef de l'État Macky Sall. L'autre chose aussi, c'est l'attachement du peuple sénégalais à la liberté. Vous savez, le Sénégal a un peuple qui a une longue histoire d'amour avec la liberté. Et cela, c'est bien avant l'indépendance. Et à un moment donné, la gouvernance de Macky Sall, qui était basée sur la persécution policière et de la gendarmerie, et surtout une persécution judiciaire avec les emprisonnements à Touba, certainement aussi cela a beaucoup contribué au rejet de l'opinion publique nationale sénégalaise pour le régime du président Macky Sall.
Le futur président de la République du Sénégal a moins de 50 ans. Pour vous, quel signal cela renvoie?
Oui, mais il faut rappeler que même si Diomaye Faye sera le plus jeune chef de l'État jusque-là de l'histoire du Sénégal, mais je voudrais vous rappeler que Abdou Diouf est venu au pouvoir à l'âge de 45 ans. Macky Sall est venu au pouvoir à 48 ans, etc. Mais tout de même, reconnaissons que oui, il est le plus jeune, donc il a 44 ans, mais cela tout simplement signifie que les Sénégalais ont envie de changement et aussi, rappelons que plus de 70% de la population sénégalaise également est composée de jeunes. Donc si aujourd'hui c'est un jeune qui vient au pouvoir, et compte tenu donc de la démographie sénégalaise, on pouvait tout simplement dire que c'est normal. Mais l'autre chose également à comprendre, c'est que peut-être que ce qui était là, qui symbolisait la vieille classe politique, peut-être que les populations ne sont pas satisfaites de la manière avec laquelle elles ont géré le pays depuis l'indépendance et le peuple aujourd'hui a envie de voir autre chose.
Alors on peut dire que la démocratie sénégalaise a résisté encore avec le Conseil constitutionnel qui est resté stoïque par rapport donc à l'analyse des textes. Ensuite, aujourd'hui des candidats qui très tôt saluent donc un élu. Comment vous, en tant que Sénégalais, vous traduisez cette attitude de ces candidats?
Oui, c'est vrai que il y a de cela un mois, la démocratie sénégalaise a vécu certainement l'une des pages les plus sombres de son histoire. Mais l'attitude du Conseil constitutionnel, la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais, de la société civile sénégalaise, montre encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie.
Alors, pour vous, aujourd'hui, quel pourrait être l'avenir du Sénégal quand Bassirou donc va co-gérer avec, on peut dire, son mentor? Comment prévoyez-vous l'avenir en termes de gestion?
En fait, oui, c'est vrai. La vie politique africaine nous réserve énormément de surprises. Toutes les hypothèses sont possibles. Peut-être que lui et Diomaye essaieront de se mélanger pour qu'il n'y ait pas de tension après. Mais de toute façon, comme le disait le président Gbagbo, le fauteuil du chef de l'État, ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Donc, il doit être beaucoup plus galant et prendre un peu de distance et reconnaître que Diomaye, même s'il était son petit, mais aujourd'hui, c'est lui le chef de l'État.
En tout cas, merci à Adama Sadio pour cette analyse.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
Docteur Adama Sadio, politologue sénégalais, décryptait les résultats de la présidentielle du 24 mars dernier au Sénégal et répondait aux questions de Jean-Claude Comé. Un entretien qui met un terme à notre édition, dont voici le rappel des titres. Le ministère de la Santé a lancé hier le projet de développement des services d'imagerie et de laboratoires d'analyse biologique qui permettra de combler les lacunes critiques en matière d'accès à ces services. Et puis le programme Digifam dédié à l'inclusion des femmes dans l'économie numérique a été présenté récemment. Il vise à améliorer la compétitivité des femmes entrepreneurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez Aoussi Potin pour la revue de presse.
Bonjour. Le Sénégal vient de tourner une page de son histoire politique marquée par l'élection de son plus jeune président.